Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et mon objectif avec ce podcast, et tous les contenus que je crée d'ailleurs, c'est de te partager toutes les ressources nécessaires pour que tu puisses développer et faire grandir ton business d'indépendant, de freelance, de solopreneur, peu importe comment tu as envie de l'appeler. Et dans ce sens, l'épisode du jour est un peu spécial, puisqu'il relate de ma propre croissance et de l'évolution de ma propre entreprise. Ça fait maintenant 2 ans que je construis des contenus et des expériences pédagogiques pour les indépendants. Et si tu fais partie des personnes qui me suivent depuis le début, depuis longtemps, tu as dû voir qu'il y a eu de grandes évolutions sur le chemin. J'ai commencé par créer mon programme Surf en Freelance en 2018, puis j'ai continué avec ce podcast, tous les contenus qui l'accompagnent, des centaines d'heures de contenus, d'autres formations, animé des séminaires, donné des dizaines et des dizaines de conférences, bref, ça m'est passé beaucoup de choses en 2 ans. Seulement voilà. Aujourd'hui, j'arrive à un stade où pour passer à la vitesse supérieure, donner vie au projet que j'ai en tête pour t'aider à avancer sur ton chemin, j'ai besoin de soutien. Et c'est pourquoi, il y a maintenant presque 6 mois, j'ai commencé à intégrer quelqu'un dans mon business, quelqu'un dans mon équipe. Et cette personne, c'est Diane Ataya, mon invitée du jour, qui, aujourd'hui, est mon bras droit, ou mon second cerveau, comme elle aime s'appeler. Diane a commencé avec moi en stage, mais au moment de la publication de cet épisode, au moment où je te parle, cela fait bientôt 1 mois qu'elle travaille avec moi en freelance et fait du coup officiellement partie de l'équipe, à raison d'un jour par semaine. Et du coup, dans cet épisode ensemble, on aborde ce passage délicat de la première fois où on délègue une partie de notre travail à quelqu'un d'autre. Par quoi est-ce qu'on commence? Comment est-ce qu'on s'organise pour ça? Comment on fait pour bien poser les briques? Comment on nourrit une relation forte avec cette personne à qui on doit faire très confiance pour rentrer dans notre monde et dans notre business? Bref, autant de questions importantes à se poser que de réponses que je commence à trouver petit à petit. Je suis clairement dans une phase d'apprentissage à tous les niveaux sur la construction de mon équipe, mais j'ai vraiment hâte de te partager ce que je découvre sur le chemin. Et ça commence donc avec cet épisode, dans les coulisses de ma propre activité, et j'espère vraiment qu'il va te plaire. On se retrouve tous les deux à la fin pour le débrief. Un grand bienvenue sur Young, Wild and Freelance, Diane. Comment tu te sens? Merci. T'es contente d'être là?
Je suis très fière d'être là. Bah oui, je suis très très fière parce que ça fait un petit bout de temps, on va dire, que je travaille avec toi, et au bout d'un moment, j'écoute les épisodes et j'avais bien envie d'avoir mon épisode dédié, donc ça fait plaisir.
Est-ce que c'était un objectif dès le début? C'est pour ça que tu... Non, je rigole.
Pas depuis le début, que pour ça.
Depuis le début, c'était ma stratégie. Non, mais c'est drôle, tu sais ce que je me disais en venant dans le Zoom et tout, je me disais, c'est marrant, il y a quoi, il y a 8 mois, 9 mois, on se connaissait pas du tout. C'est marrant, hein? De se dire ça.
Bah ouais. Ouais, bah j'en parlais avec Marine, qui est mon inconnue de travail, comme j'aime l'appeler, que j'ai rencontrée durant mes études. Et je lui en parlais un peu, et je disais, elle était à côté de moi quand on avait commencé à discuter pour mon stage. Ouais. C'était en janvier 2020, début janvier. Elle-même, elle se rappelle quand on avait eu nos échanges, et je lui disais, on est en janvier, mais je ne te connaissais pas, Thomas. Qu'est-ce que je faisais de ma vie?
Quelle année 2020? Parce que du coup, tu l'as commencé sur les bancs de l'école et tu l'as fini. Ouais. Et c'est le sens de ma première question, qui est un peu la question rituelle un peu évoluée. Tu l'as fini en devenant indépendante. Et du coup, ma question, c'est pourquoi, Diane, est-ce qu'à la sortie de ton L3, donc tu n'as pas fait de master, pourquoi tu choisis de devenir freelance?
Non, pas fait master. En fait, je pense qu'il y a deux grandes raisons. La première, c'est surtout un constat, c'est que après mon stage et durant mon stage, j'avais ni la motivation ni la détermination de trouver une entreprise qui voulait moi, entre guillemets, allait être en accord avec mes valeurs, avec ce que je voulais apporter et ce que mes envies présentes et futures. Et il y a une autre chose, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte aussi que j'avais vraiment envie de travailler avec des personnes qui m'inspiraient par leur contenu, par leurs idées, par ce qu'ils délivraient. Et du coup, j'avais envie de continuer de découvrir ce qu'ils faisaient à l'intérieur de leur contenu, de leur business, de toute leur vie entrepreneuriale et indépendante. Et j'avais envie de continuer de découvrir les coulisses de gens qui font des trucs. Donc il y avait ça, et en plus durant ma troisième année, j'ai lancé trois podcasts en moins d'un an, et j'avais pas envie que ces podcasts ils soient arrêtés parce que j'étais salariée. Parce qu'en fait, même si j'ai pas des millions d'écoutes dessus, en fait, ça m'apporte une satisfaction et un bonheur et un truc hyper gratifiant de le faire. Il y en a un que je fais avec ma sœur. On n'a pas des milliers d'écoutes dessus, mais on sent que ça nous fait tellement plaisir de le faire, de programmer les sujets, etc., que je voulais pas les laisser à côté. Et ça aurait été très dommage aussi parce que, en termes de marque personnelle, on va en parler peut-être plus tard, mais... ça a montré aussi que le podcast, c'est quelque chose que j'admirais, et c'est un format que j'aime tellement écouter, mais aussi faire, que j'avais pas envie de le laisser de côté. Et ça s'est passé que l'entrepreneuriat et l'indépendance, c'était quand même une des choses qui me correspondait le plus, quoi.
Et pour approfondir un peu sur cette question, est-ce que du coup, ça fait depuis longtemps que tu sais que après ta licence, genre après la troisième année là d'école, tu voulais ne pas faire de master, ou est-ce que c'est une décision que tu as prise récemment, et pourquoi tu as décidé de ne pas faire de master?
Alors, c'est un truc que je savais très très vite que je ne voulais pas faire d'études après mes 3 ans d'école. Ça m'est surtout venu quand j'ai fait mes 2 stages, un première année, un deuxième année, et celui-ci du coup en troisième année. mais surtout celui en deuxième année. Donc en deuxième année, j'ai fait un stage chez Udeo, qui est une agence de talent qui a été montée par Paul et Laetitia, PNL, comme j'aime les appeler.
Si PNL nous écoute, bisous PNL.
Et en fait, c'est une agence de talent qui a été montée par deux, donc Paul et Laetitia, qui en plus l'ont montée quand ils étaient encore étudiants, donc ils jonglaient avec les deux. Et ils n'ont pas fait, oui, ils n'ont pas fait d'études genre en influence de marque ou je sais pas. Ils ont fait des études. Paul, il a fait des études dans les médias d'internet et Laetitia, elle a fait des études de réel et tout. Mais à aucun moment, ils ont fait des études pour apprendre à démarcher des partenariats avec des marques et des talents. Et pourtant, bah, ils l'ont fait et ils ont appris sur le tas. Et il y a plein de choses que j'ai fait là-bas que j'ai appris sur le tas et je suis très très fière de les avoir fait. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que bah vraiment la plupart des choses dont j'étais très fière aujourd'hui et dont j'arrivais à avoir une reconnaissance, j'avais pas appris ça sur les bancs de l'école. Quand j'ai monté mes podcasts, c'est pas pendant ma troisième année qu'on m'a appris à faire des podcasts. J'ai pris un enregistreur, j'ai parlé dedans et paf, j'ai été podcasteuse. Je me suis rendu compte très vite que j'avais pas du tout envie de faire des études longues. Je crois que même en terminale, j'avais déjà ça. Je me disais, maintenant, je vais faire un truc court pour travailler très vite et pour apprendre sur le tas, quoi.
Ouais, c'est hyper intéressant parce que l'année dernière, j'étais partenaire à Vivatech et du coup, j'étais sur un stand avec mon partenaire. Je sais pas si tu vois ce que c'est Vivatech d'ailleurs, toi. Oui, tu vois ce que c'est, j'imagine, quand même.
Oui.
Et du coup, j'avais donné un talk, un petit atelier, une petite conférence sur notre stand et c'était sur... les évolutions dans le monde de l'éducation. Et je parlais du coup notamment pas mal de la formation en ligne et l'éducation, de la self-education, donc les gens qui vont apprendre par eux-mêmes des compétences et qui choisissent les compétences sur mesure et suivent des formations qui ne sont pas forcément dispensées par des écoles. Et un des trucs que je disais dans ce talk que je trouve super intéressant, et je le vois avec toi du coup aussi, c'est que tu mets plus de valeur sur l'expérimentation du terrain et l'apprentissage par toi-même en faisant que sur un diplôme ou sur ce qu'une école peut arriver. Pour toi, j'ai l'impression, tu te dis, ça a plus de valeur pour moi de tester, de faire des choses sur le terrain, et j'ai l'impression que ça a plus de valeur pour les autres que de rentrer dans une école et avoir un diplôme de master, etc. etc. Tu te reconnais là-dedans ?
Mais je suis totalement d'accord. En plus, alors peut-être tu me contrediras sur ça, mais j'ai l'impression en fait qu'en troisième année, quand j'ai fait plein de candidatures pour plein de stages et plein d'entreprises, je les ai toutes soit pas eues, soit ils m'ont pas répondu, soit plein de choses. Et le stage que j'ai eu donc chez Lab, qui se finit aujourd'hui, on enregistre mon dernier jour de stage. C'est important. J'ai l'impression que le fait que j'ai été prise, peut-être je me trompe et tu me contrediras, mais c'est le fait que j'avais fait des trucs juste parce que j'avais envie de faire des trucs. Et je le vois dans mes camarades de classe, vraiment, il y a plein de gens qui savaient pas comment faire leur candidature, qui savaient pas comment, ils savaient même pas trouver, ils savaient même pas où est-ce qu'ils voulaient postuler en fait, ils savaient même pas quoi faire après leurs études, alors que ça faisait déjà 3 ans qu'on faisait des études, qu'on apprenait des choses, qu'on faisait des projets assez différents. Et moi je me suis dit au bout de la troisième année, bah en fait si tu veux vraiment faire un truc qui te plaît, une entreprise qui est en accord avec ce que tu as envie de délivrer ou genre qui est en accord avec tes valeurs, bah fais un projet, je sais pas, un truc pour le montrer, quoi.
Ouais. C'est clair que c'est marrant qu'on arrive à cette discussion parce que ce matin, je me suis fait interviewer ce matin dans un podcast et une des questions qu'on m'a posée, c'est comment j'ai fait pour choisir les gens avec qui je m'entoure et avec qui je commence à structurer une équipe. Et du coup, on parlait de toi. Et c'est un peu la thématique de cet épisode d'ailleurs, donc c'est bien qu'on en parle. Parce que justement, un des trucs qui m'a fait tiquer quand on discutait et que tu m'as dit que tu cherchais un stage et qu'ensuite je t'ai dit, bah, envoie-nous ton CV, ce que tu fais, enfin voilà, candidate, quoi. C'est que déjà ton CV, c'était en mode pas un CV, dans le sens où, pour ceux qui nous écoutent, le CV de Diane, c'était un truc interactif et à chaque fois que tu cliquais, ça arrivait sur une vidéo YouTube où elle nous racontait une petite histoire et elle expliquait ce qu'elle avait fait et pourquoi, en montrant ses compétences de, ben voilà, je sais faire des vidéos, je sais faire un peu de montage, je sais faire un peu de ci, je sais faire un peu de ça. Et en plus de ça, bah, le contenu de ce CV, c'était pas « je suis à telle école mm. », c'était genre « j'ai fait tel projet, j'ai lancé tel truc, j'ai essayé telle chose ». Et ce que je percevais chez toi, du coup, c'était genre bah, « t'as envie d'apprendre, t'as envie de te bouger le cul, t'es dynamique, tu sais que tu peux progresser si tu bosses dessus, quoi ». Et moi, c'était ma réponse, du coup, ce matin, je disais « c'est ça que je valorise ». Et clairement, du coup, c'est là où t'as raison. Moi, c'est un truc que je valorise. Je sais pas si c'est vrai pour l'ensemble du marché et que tout le monde valorise ça. Je pense que ça existe encore clairement des gens qui valorisent le diplôme de telle école, parce que machin. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça a tendance à changer, par contre.
Ouais. En plus, il y a le fait que, bon, peut-être pas faire un énorme shitstorm sur mon école, mais mon école est un peu compliquée. Non, mais tu couperas peut-être. Mon école n'est pas genre la meilleure des écoles top of the world et tout. L'administration n'est pas top et même elle n'est pas hyper reconnue aussi. C'est une petite école qui est à Tours, qui n'est pas connue dans toute la France. Donc, je ne pouvais pas, entre guillemets, jouer sur bah, « j'ai été sur telle école et j'ai eu un diplôme ». Et voilà, maintenant,
Mais je pense que, tu vois, même les gens comme moi, tu vois, j'étais à Dauphine, donc j'ai un peu le tampon. Mais même là, pour moi, ce qui fait vraiment une différence, et c'est un truc qu'on devrait enseigner à l'école et aux étudiants, c'est genre, tu disais tout à l'heure le mot marque personnelle, fais des projets, montre ton unicité, montre ce qui te parle, montre ce qui te plaît. Mmh. Et c'est pour ça que, je sais pas si tu vois sur Internet tous les CV hyper créatifs des gens et tout, ça fait partie de ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a des projets aussi à faire. Mmh. Et c'est ça que je trouve hyper important et c'est pour ça finalement qu'on est ensemble là sur le podcast.
Parce que donc avec Marine Roman, qui est mon accolée de travail, pour la petite anecdote, j'en parle souvent, mais Marine, c'est la première personne que j'ai rencontrée dans mon école, mais vraiment la première personne, c'est-à-dire que je suis arrivée à la rentrée de la première année, elle était sur le pas de la porte, elle savait pas où était la rentrée, et moi non plus, et depuis on s'est plus quitté. Et on va se lancer en même temps là, en tant qu'indépendante, et on se fait des visios toutes les semaines. Peut-être j'ai piqué ça à toi, je sais pas, pour voir un peu notre avancement. Et on se posait la question, qu'est-ce qu'on dirait à genre la nous de il y a trois, qu'est-ce qu'on a tiré comme expérience de il y a trois ans? On dirait quoi à la nous d'il y a trois ans qui commençait? Et moi je me disais, en fait, attends pas la troisième année pour monter des projets, fais-le dès ta première année, quoi. Et je pense s'il y a des étudiants ou des étudiants qui nous écoutent, si vous êtes en première année de votre école et que vous avez envie genre de, même si vous n'avez pas envie, en fait, même si vous n'avez pas envie d'être indépendant ou indépendante, ça vous apportera toujours du positif. Grave. De faire un truc, mais juste petit, mais peut-être juste une newsletter une fois par mois ou un compte Instagram avec vos créations ou juste une chaîne YouTube, même si vous êtes plus sur la vidéo et même si c'est pas...
Ouais, une... tout et n'importe quoi.
Ouais.
Écrivez des histoires.
Mais ouais.
Genre, on s'en fout, quoi, mais faites des choses qui vous ressemblent.
Et tu disais tout et n'importe quoi. Par contre, vous êtes lancez pas 10 000 trucs en même temps. Vous êtes étudiant. Vous avez aussi des cours à rendre, des devoirs. Donc, vous dites pas, je vais faire, un podcast, une chaîne YouTube, des articles, une newsletter en même temps. Concentrez-vous peut-être sur un truc précieux vous savez que vous allez y prendre du plaisir à le faire aussi. C'est important. Mais attendez pas la troisième année de votre école pour le faire, quoi. Faites-le dès la première année. Ça. Vous êtes étudiant, vous êtes là pour faire des trucs et apprendre à expérimenter encore plus que quand vous allez vous lancer, si vous vous lancez en indépendant ou en indépendante.
Ouais, c'est clair. En tout cas, ça mènera sur un chemin qui sera intéressant quoi qu'il arrive. Et du coup, finalement, le tien, le chemin où toi, ça t'a mené toutes ces expérimentations, effectivement, c'est de l'indépendance. Et tu choisis de te lancer. Et tu me disais juste au début, t'as fait la semaine dernière les papiers et t'attends ton ciré. Donc, c'est bientôt le grand moment où tout s'officialise. Ouais. Et le sujet de notre épisode, c'est aussi un truc hyper intéressant que j'ai envie qu'on creuse ensemble. C'est le fait de construire une équipe. J'en suis à un stade, moi, dans mon activité où tu le vois depuis 6 mois. La prochaine étape passe par le fait de construire quelque chose de plus structuré, plus organisé, plus fluide, avec des vrais process et tout pour qu'on passe à la prochaine étape. Et ça passe donc par le fait que, et je l'annonce du coup en live parce que je l'ai pas encore vraiment annoncé en live, mais Diane reste travailler avec moi en tant que freelance, mais c'est la première membre officielle et reconnue publiquement de l'équipe sur tous les sujets de création de contenu pour les indépendants et tout. Donc bienvenue dans l'équipe, Diane, déjà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu parce que avant qu'on rentre dans le concret de comment on s'organise ensemble, peut-être c'est intéressant aussi de parler de qu'est-ce que tu vas faire en tant qu'indépendante et en quoi ça découle de ce travail de structuration et d'organisation d'équipe qu'on a fait depuis 5 mois, ton positionnement et tout, enfin voilà, tout ce qui est en
début. Tu veux juste pour toi dans ta marque perso ou dans le global
Bah, globalement, parce que finalement, c'est assez lié ce que tu fais avec moi et ce que tu vas faire avec, avec d'autres clients, parce que du coup, tu vas pas être en full-time avec moi.
Désolée, Thomas.
Bah, désolée, Diane, j'aimerais beaucoup, mais...
Oui.
Non, bientôt.
La plus grosse partie, c'est la création de contenu. Et la plus grosse partie, c'est surtout de la programmation de contenu social média. Donc, les posts Insta de Thomas, la plupart du temps, c'est moi qui les programme. La plupart du temps, c'est moi qui fais les visuels aussi. Mais ce qui me fait le plus plaisir, on va pas se mentir, c'est de faire de la mise en page de workbook. Donc, le workbook sur la vision qui, normalement, est sorti, Thomas. Et c'est moi qui fais toute la mise en page. Je m'occupe aussi beaucoup de la gestion des points hebdo et de toute l'organisation Notion. On en parlera plus tard. Mais de l'espace de Thomas et de mes clients. Pour m'inspirer si j'oublie les choses.
Ce que je peux te proposer, c'est en fait de... Clairement, il y a plein de choses qui sont encapsulées dans le rôle qu'on a construit ensemble, d'ailleurs, de ce que tu joues pour moi. Mais moi, je vais dire peut-être ce que ça me fait pour moi. J'ai vraiment l'impression de enfin... avoir quelqu'un avec qui je peux décharger tout ce qui se passe dans ma tête. Et c'est un peu le positionnement que tu vas te donner, de dire Diane, elle se présente comme ça, et je pense que tu vas continuer de te présenter comme ça pour tes futurs clients aussi. C'est un peu mon deuxième cerveau. Et clairement, tu vois, cet exemple que tu prends sur les points hebdo, moi, c'est un truc qui fait une énorme différence pour moi, où on a un point toutes les semaines avec Diane, et on pourra rentrer du coup dans comment on s'organise au quotidien, tu pourras en parler. Où on parle un peu de tout ce qui se passe, etc. Et j'arrive, et Diane, elle a fait une checklist avec un, deux, tous les points qu'il faut qu'on voit. Et moi, j'ai juste à suivre et à lui dire, OK, sur ça, on va faire comme ça et tout. Et c'est ultra plaisant pour moi. Clairement, je pense que tu mesures pas à quel point c'est énorme pour moi d'avoir ça et à quel point ça fait du bien de pouvoir me reposer sur toi.
En fait, je me suis rendu compte aussi que ce mindset un peu d'organisation et de deuxième cerveau, du coup mon deuxième cerveau, je l'ai vraiment appris avec mon stage, mais d'organisation, c'est un truc que je fais depuis longtemps en fait, mais instinctivement, même au lycée, genre je faisais des to-do list de ce que je devais faire le week-end, tu vois, ça fait longtemps, et Marine, elle m'en parlait, elle me disait, mais même en première année t'étais hyper organisée par rapport à moi, donc je pense que c'est un truc qui est limite évident pour moi, c'est de préparer le point hebdo, de lister tous les trucs qu'on a à faire, toutes les idées que j'ai, qu'il faut qu'on voit ensemble.
De me relancer 25 fois.
Oui. Ça aussi, ça fait partie de mon mindset deuxième cerveau. Mais je trouve que le deuxième cerveau, c'est... Il y a beaucoup de gens dans l'univers d'indépendance, de bras droit, et qui parlent beaucoup d'assistante. Moi, je trouve que ce serait dénigrer tout le travail que je fais de dire que je suis juste une assistante pour toi. Et bras droit, je me reconnais pas trop là-dedans, parce qu'en fait je fais aussi de la réflexion et de la strat ensemble, et deuxième cerveau, je trouve que c'est vraiment ça, parce que ce qu'on disait ensemble, c'est que je suis là, et depuis que je suis là, t'as un temps qui te permet de penser à autre chose, d'avoir un temps de cerveau disponible, à pas te dire, ah, faut que je programme tel poste, ah, faut que je fasse tel truc, ah, faut que je m'occupe de telle ou telle publication, voilà. Ça, vraiment, ça te permet vraiment de souffler, quoi, et j'en suis très ravie que ça fonctionne, en fait.
Eh ben, moi aussi. Ben, clairement, tu vois, je viens de capter un truc, que le truc de deuxième cerveau, et quand tu te parles d'espace disponible, j'ai vraiment l'impression que, tu vois, comme si, tu branches un disque dur sur son ordinateur. J'ai l'impression que c'est ça un peu l'effet de ces 5 mois. C'est genre, il y a plus de place. Et je peux me concentrer. tu vois, genre on parle souvent de ce truc, la zone de génie, les choses comme ça, tu vois, je peux me concentrer sur les endroits où j'apporte le plus de valeur à l'audience qu'on est en train de construire. Et j'aime de plus en plus parler en on pour nous dire tous les deux, mais parler de tous ces indépendants qui écoutent ce podcast, qui suivent les articles, qui lisent la newsletter. Si je peux me concentrer sur vraiment le fait de développer des choses au maximum pour eux et que toi, tu peux m'accompagner dans la suite des choses, tout le monde gagne. Et ça me fait vraiment du bien d'avoir cet espace-là. Et à la base, on peut peut-être remonter à la base et maintenant parler de comment on s'organise aujourd'hui. Mais à la base, ce que Diane m'a beaucoup aidé à faire, c'est à partir d'un épisode de podcast, par exemple, comment est-ce qu'on le découpe pour en faire des choses plus consommables au quotidien sur les réseaux sociaux. J'appelle ça du micro-contenu, pour le distribuer de plein de différentes manières. Et ça a commencé par là. Et aujourd'hui, effectivement, tu prends de plus en plus cette place de coordination des choses, en fait.
Et je m'occupe aussi de... Je prends aussi plus de place sur les contenus piliers. Aussi, et je trouve que c'est un point à nommer parce que ça veut dire aussi que je prends plus de place dans nous deux, c'est très bizarre, mais dans ta marque et dans ce qu'on fait ensemble. Parce que oui, je fais des micro-contenus. La plupart du temps, les micro-contenus, c'est des épisodes de podcast, c'est des citations. Mais les contenus piliers, je fais pas les épisodes de podcast. Par contre, le workbook sur la vision, c'est un contenu pilier et c'est quelque chose que je t'ai parlé et après on l'a fait ensemble.
Clairement. Ça va aussi avec, et je pense que c'est intéressant comme apprentissage pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans la réflexion de tiens, moi aussi j'aimerais bien me construire une équipe, ne plus être seul, avoir quelqu'un qui m'accompagne, qui m'assiste ou quoi que ce soit, de définir un peu la vision de ce que c'est le scope que vous avez envie de donner à votre équipe. Et clairement, c'est OK, s'il y a des gens qui veulent juste se dédouaner, par exemple, de la programmation social media et ainsi de suite, ça fait partie des choses et c'est top déjà. Mais clairement, moi, ma vision et ce que j'ai envie qu'on construise tous les deux, c'est que tu aies une vraie place pour faire grandir les choses avec moi. Pas que ce soit juste OK, je prends un truc que je faisais, je te le donne et moi, je fais autre chose, mais qu'ensemble, on travaille sur des choses. Et d'ailleurs, du coup, tu parles des contenus piliers. Il y a un article sur lequel on a commencé à travailler, c'est Diane qui va le piloter en priorité. Et j'ai envie que tu aies aussi cette façade publique face aux indépendants qui nous suivent. Ça, c'est le contenu qui a été piloté et créé en grande partie par Diane et qu'on puisse signer l'article de ton nom et ainsi de suite et contribuer à ça aussi, quoi. Donc, pas juste que tu sois dans l'ombre derrière et sinon, on ferait pas forcément cet épisode d'ailleurs non plus, mais que tu prennes vraiment une place et qu'on soit au même niveau dans l'équipe, tu vois.
Oui. Moi, c'est ce que je dis quand j'ai commencé à faire des calls découvertes avec des personnes, quand ils me demandent un peu comment je vois la relation entre moi et la personne. Et je dis plusieurs choses. Je dis on travaille d'égal à égal. Je donne ton exemple. Je dis Thomas, c'est pas mon boss. C'est pas mon supérieur, c'est pas mon N+1, c'est pas vraiment mon maître de stage, c'est la personne avec qui je travaille et on est d'égal à égal et si je fais des conneries, je fais des conneries et s'il fait des conneries, il fait des conneries et c'est normal, on apprend chaque jour. Deuxième chose, on apprend chacun l'un de l'autre, donc j'apprends autant de Thomas qu'il apprend de moi. Moi, ce stage... qui se finit, ça m'a appris à me dire que j'étais sûre et j'avais envie d'être indépendante. Et le fait que je sois là, ça t'a aussi appris à pas juste je suis ton deuxième cerveau et on commence à travailler ensemble, mais puisque j'étais stagiaire, tu devais m'apprendre à travailler avec toi et à vraiment à comprendre aussi ton mode de travail. Mais c'était tout un processus qui a été hyper bénéfique parce que au-delà d'apprendre à travailler avec toi, ça m'a aussi dit. Voilà comment un indépendant qui travaille beaucoup, qui fait plein de choses, travaille et son processus de création, c'est ça. Et je pense que c'est super important. Surtout quand on a cette idée un peu plus, qui est plus mature de se dire, j'aurais bien être au contact de, enfin, j'aurais bien être bras droit au deuxième cerveau et qu'on finit ses études. faire un stage avec un entrepreneur indépendant, enfin quelqu'un qui avec qui on a travaillé, c'est vraiment, je pense, la meilleure des idées, parce que on apprend et on est sûr que au bout de, ça dépend de la taille du stage, mais de 5-6 mois, bah on sait qu'on va pouvoir travailler avec lui, et surtout on a déjà toutes les étapes de ça fonctionne pas, on ajoute, on refait. Nous, on a pris beaucoup de temps à se caler des points hebdo toutes les semaines, mais après, bah, c'était automatique et on n'avait même plus besoin de se faire des vidéos entre temps, quoi. On s'était
aussi clair.
Appris trop tard.
C'est clair. Et c'est une question que je voulais te poser d'ailleurs, parce que clairement, quand on a commencé à bosser ensemble, moi j'étais un peu au balbutiement de vouloir structurer les choses, organiser une équipe, accueillir quelqu'un avec moi. Et c'est une envie que j'ai depuis toujours, mais j'avais pas pris le temps de bien organiser le truc. Et c'était un peu une excuse pour moi aussi de me dire, OK, bah, j'ai quelqu'un qui arrive. C'est le meilleur moment de bosser sur ça et vraiment faire en sorte que, voilà, on organise. Mais du coup, j'aimerais bien savoir, si on recommençait aujourd'hui, qu'est-ce que t'aurais aimé recevoir comme onboarding ou comme doc, ou qu'est-ce que t'aurais aimé que je fasse bien? Et comme ça, les gens qui nous écoutent, ils peuvent s'en inspirer pour eux s'ils veulent monter une équipe.
Alors, il y a juste un truc, t'as déjà eu des stagiaires, non?
J'ai déjà eu des stagiaires, mais c'était jamais avec le même sujet.
D'accord.
C'était plus ça. Pour mes clients, tu vois.
Ouais. Après, ça dépend de l'organisation des gens, mais je pense que ce qui m'aurait vraiment facilité la tâche, c'était juste un document très clair avec un peu la charte graphique en une page de la personne, de quelle couleur tu utilises, quel fond tu utilises tout le temps. Quel typo tu utilises tout le temps, c'est quoi les trucs que tu utilises le plus souvent. Il y a aussi autre chose, me passer tous les accès au drive. Ce que j'ai fait là au début de mon activité, c'est que j'ai fait une checklist avant mon arrivée pour que, avant que j'arrive, les personnes, ce soit tout clair, que j'ai pu à demander les accès, par exemple au podcast ou au site internet. Parce que c'est des choses qui prennent du temps, je l'ai vu. Mais je pense qu'il y a un truc aussi qu'on aurait dû faire dès le début, c'est se fixer des points, mais hebdo, mais dès le début, en fait. Ouais. Parce que du coup, on se faisait des visios, mais pas vraiment structurés, où j'avais juste besoin d'un retour, et du coup, ça me durait 15 minutes, et puis en fait, on aurait pu le faire par écrit. Donc, plus de structure, mais je pense aussi qu'il y a... C'est un truc qui fait que j'ai besoin d'être là, quoi. J'ai commencé à travailler avec Kylian, que tu connais, et
il paraît.
et puisque lui, en plus, il est vraiment au tout début de son indépendance, je lui ai vraiment structuré tout ça, et je sens aussi que je vais avoir du temps où je vais devoir structurer ses idées, structurer tout son espace Notion parce que il va en avoir besoin. Mais je pense que ça fait aussi partie du travail, tu vois. Apprendre à onboarder quelqu'un, ça dépend de la personne, ça dépend de c'est plein clair. De facteurs qui font que je pense que si ça n'avait pas été, enfin je me trompe peut-être, mais je pense que si ça n'avait pas été moi ton deuxième cerveau, tu n'aurais pas fonctionné pareil et on n'aurait pas eu les mêmes la même structure, peut-être les points de doute on les aurait pas fait du tout, ou peut-être tu les aurais fait plus vite et
Je pense qu'il y avait il y a un élément à prendre en compte, effectivement, c'est que le monde dans lequel tu arrives, c'est pas comme si tu connaissais déjà et que une personne, je sais avec qui t'as discuté et qui me vient en tête, c'est Sonia, qui a ce rôle de bras droit pour d'autres personnes, Sonia Laurembourg, pour ceux qui nous écoutent si vous la connaissez pas. Et tu vois, genre, si c'était Sonia, clairement, Sonia, elle a sa méthodo, elle va arriver, elle va organiser les choses, elle sait ce que c'est un business de l'information en ligne, et ainsi de suite. Et il y avait cet enjeu aussi, et que clairement, du coup, on aurait dû faire un énorme point dès le début, par exemple, ou des points hebdo réguliers, aussi pour que je te montre de plus en plus, et je l'ai fait, mais de manière peut-être plus élargie, à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, c'est quoi... C'est quoi la structure d'une entreprise comme la mienne, parce que clairement elle est unique par rapport à d'autres, et de comment je travaille et tout ça. Et effectivement, ça c'est clairement des sujets d'onboarding, de c'est quoi les process de travail chez chez Thomas Burbidge.
Et je pense que tu vois avec le recul, je pense qu'on n'aurait pas eu besoin de genre une journée d'onboarding, on aurait besoin d'une semaine d'onboarding, sur chacun de tes réseaux. Non, mais vraiment, ouais. sur chacun de tes réseaux, ouais, ouais. Sur chaque accès, sur ton organisation, ouais. sur YouTube, sur ton podcast, sur ton compte Instagram, sur chacun de tes trucs et sur qu'est-ce que tu veux leur, qu'est-ce que tu as comme ligne un peu éditoriale, stratégique dessus. Parce qu'en fait, ça dépend après de l'ampleur de l'entreprise, de tout ce que ça implique, mais ça prend beaucoup de temps. Et alors oui, le nôtre, il a été dilué dans le temps et dans les 5 mois que j'ai eu en stage. Mais ce qui a apporté le plus, c'est que aussi pendant les 5 mois en stage, bah en fait, je n'ai pas eu besoin dès le début d'avoir accès à ton site, j'ai pas eu besoin dès le début ouais. d'avoir accès à ta chaîne YouTube, j'ai pas eu besoin dès le début d'avoir accès à Pinterest ou à la programmation des posts Insta. Mais c'est sûr que on aurait fait une semaine d'onboarding au début, bah il y aurait des choses où j'aurais été beaucoup plus vite, c'est sûr.
Mais c'est clair. Aussi. Ouais, ben ouais. Mais je pense que pour boucler pour les gens qui nous écoutent, qui se disent je vais monter une équipe, c'est un bon point ouais. de se dire réfléchissez en amont toutes les choses que vous voulez traiter avec la personne, toutes les choses qui vont faciliter son arrivée, sa compréhension de comment vous fonctionnez, de vos enjeux, de vos réseaux, comme tu dis, de la charte graphique qui est un très bon exemple si c'est quelqu'un qui va créer du contenu, et de préparer tout ça pour effectivement que ce soit hyper fluide à l'arrivée. Et je l'avais fait un peu, j'avais fait certaines choses, mais je pense pas au niveau nécessaire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense à l'époque, j'avais pas du tout de clarté sur l'ambition du rôle que je voulais que t'aies, parce qu'on se connaissait pas. On se connaissait pas, je savais pas de quoi t'étais capable, je savais pas ce qui t'intéressait, je savais pas où t'avais envie d'aller, donc il y avait ça aussi, où j'avais pas clairement défini aussi par rapport à ça. C'était un peu dans, je sais que je veux une équipe, je sais pas exactement quel rôle encore, parce que j'avais pas de clarté sur ce qui me prenait plus de temps, et là, ce que je voulais déléguer et tout. Et du coup, il y a ça qui a joué. Et je pense que c'est un autre truc intéressant de... Parce qu'on...
Je reviens sur... De se poser la question de pourquoi aussi j'ai envie d'avoir un deuxième cerveau.
Parce ouais, grave.
Le rôle... Est-ce que j'ai envie d'avoir un deuxième cerveau pour me déléguer des tâches très opérationnelles, ou est-ce que j'ai envie d'avoir un deuxième cerveau pour m'aider à lancer un super projet qui arrive dans 6 mois, je dis n'importe quoi. Je sens je vais avoir besoin d'elle parce que, d'elle ou de lui. Ouais. Pas beaucoup de lui, mais d'elle parce que je vais pas pouvoir le gérer tout seul ou parce que j'ai des idées qui partent dans tous les sens et que j'ai besoin des structures.
Ouais, réfléchir ensemble et tout ça.
Pourquoi j'en ai besoin.
Grave. Ouais. Grave. Ce que j'allais dire aussi, c'est, je pense que ça s'est construit au fur et à mesure de la construction de notre relation entre tous les deux aussi et de apprendre à mieux se connaître. On a plein de fois pendant des points hebdo eu des conversations qui n'avaient absolument rien à voir avec le business. On a parlé de trucs hyper profonds et c'était trop bien. Et je sens aussi que pour moi, ça fait clairement partie. Ce matin, quand on me posait la question comment tu choisis et comment tu as choisi Diane, j'ai dit ça aussi. J'ai dit en fait, pour moi, c'est une relation et un lien humain parce que il aurait pu avoir quelqu'un avec toutes les compétences qui coche toutes les cases et tout si j'avais eu de la clarté sur ce que je voulais. Mais s'il n'y a pas le fit, bah, pour moi, on ne peut pas aller aussi loin. Et toi, d'ailleurs, je t'ai raconté des choses que je n'ai pas racontées à plein d'autres gens. Évidemment, parce que tu es là à l'intérieur, tu sais plus de choses que les gens qui écoutent ce podcast, par exemple. Mais ça fait aussi partie, à mon sens, de qu'est-ce qui construit une équipe forte. C'est ce lien humain, quoi.
Être le deuxième cerveau, c'est aussi être là dans les bons et les mauvais moments. Il y a pas mal de moments où Thomas, il m'a dit pour les points d'eau, bah désolé, mais j'ai pas la motivation. J'ai pas envie.
Je suis fatiguée.
Je suis sous l'eau. Je peux pas. Et au début, moi, c'était compliqué. Tu le sais, Thomas, c'était compliqué pour moi. Et en fait, je me suis aussi dit. Tu ne travailles pas avec une entreprise de 10 000 personnes, tu travailles avec une personne qui, c'est aussi être là, quoi. C'est aussi soutenir et se dire, c'est pas grave. Il y a un truc que j'ai beaucoup appris avec toi, une phrase que je dis très souvent à Marie, elle me dit, ça ne va pas changer la face du monde. S'il y a un poste qui ne sort pas, c'est pas grave, ça ne va pas changer la face du monde. C'est pas grave et c'est vraiment ce que je me dis au fond de moi, c'est que on est des personnes. Et on est des, même si on est des personnes qui entreprennent, qui délivrent un message, qui font des, qui font du contenu, qui sortent des, qui font des podcasts, etc. On est, au fond, nous, on est des personnes qui avons des moments d'angoisse, de doute, de pas de motivation, de déprime, et il faut vraiment le comprendre et l'accepter. Et encore plus quand on travaille avec d'autres personnes. Parce que quand on construit une équipe, si les personnes avec qui on travaille, elles disent « Oui, mais en fait, là, il faut publier le poste, donc s'il te plaît, tu vas te dépêcher. » C'est hyper anxiogène et c'est pas en accord avec ce que tu délivres, surtout toi, quand tu parles beaucoup de remise en question, de vision, etc. C'est totalement en accord avec ce que tu fais, donc ça n'aurait pas eu de sens que pendant un mois et demi, je te dise « Oui, mais il y a des postes à programmer, donc tu vas te dépêcher. » Ça n'aurait pas eu de sens. Ça aurait été
sachant que tu me le dis des fois quand même.
Oui, je te l'ai dit des fois. Mais au bout d'un moment, j'ai aussi compris que je ne devais pas te forcer à le faire. Quoi.
Ouais, ça me fait écho à... J'ai une phrase, qui revient souvent dans ma vie en ce moment, notamment suite à un livre que j'ai offert à ma pote, qui elle est en train de le lire et du coup, elle la sort aussi. Et je l'ai mis en story sur Instagram tout à l'heure. Elle avait fait un petit dessin. Et il y avait écrit ça dessus, c'est « On est des petits êtres humains qui tournons sur un rocher au milieu d'un vide intersidéral qu'on a appelé l'univers. » On est juste rien, quoi. Et il y a mon pote Romain Limois, il m'a rappelé qu'il y a Naval Ravikant, qui est un gars que je vous invite à aller suivre aussi, qui parle de ça, il dit « On est des singes sur un caillou qui tournent dans le vide. » Et j'adore, parce que clairement, ça te ramène à putain, mais mon post Instagram, qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Oui.
C'est pas grave s'il sort pas maintenant, et il y en a un que je devais faire aujourd'hui que j'ai pas encore fait à 16h51, et peut-être que je le ferai tout à l'heure, et peut-être que je le ferai que demain, et c'est pas la fin du monde, en fait.
Et ça détend, en fait. Ça détend et ça t'aide à te dire, mais vraiment, mais moi, mes podcasts, ils font pas 10 000 écoutes, mais c'est pas grave, je suis vivante. Le monde, il tourne, il fait beau, il y a les gens, ils sont vivants, ça va, franchement, c'est pas grave, quoi. C'est vraiment grave. Pas grave.
Grave. Mais toutefois, faisons des projets, avançons, créons des choses, osons y aller, et parfois, bougeons-nous le cul pour le faire.
Ouais.
Et c'est dans... Tu vois, genre, j'aime bien cette phrase qui dit « La vraie maîtrise vient du fait de réussir à comprendre et maîtriser des paradoxes apparents. » Et ça, c'en est un, j'ai l'impression. Avancer, se bouger le cul, oser faire des grandes choses, sans se mettre la pression de « il faut que ça marche », etc. Et en se souvenant, à la fin, at the end of the day, au bout du compte, je suis quand même juste un petit morceau de poussière. On a plongé très deep, là, tout d'un coup. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais tout d'un coup, on a fait « vouf ». Mais c'est cool, moi j'adore, tu sais que j'aime bien.
Moi aussi. Bah, c'est pour ça qu'on travaille ensemble.
Clairement. Mais du coup, pour revenir à des choses peut-être concrètes sur le sujet du jour de construire une équipe, je vais essayer de récapituler un peu ce qu'on s'est dit pour l'instant. Ce que j'ai entendu pour l'instant, la première chose, c'est qu'il faut vraiment se demander pourquoi t'as envie d'accueillir quelqu'un dans ton équipe, c'est quoi tes objectifs derrière, qu'est-ce que t'as envie qu'elle t'aide à faire cette personne, et à quoi ça ressemble du coup, le pourquoi du début, mais aussi la vision finale de construire une équipe pour toi, t'as envie de l'emmener où, et tu veux que ça ressemble à quoi au bout du compte. Pour moi, c'est j'ai envie d'avoir un ensemble de personnes, on a une même quête, on avance ensemble, et tout le monde a un rôle hyper précis à jouer et contribue à l'ensemble. Et que tout le monde, comme tu dis, soit sur un pied d'égalité, et c'est pas moi, Thomas Burbidge, et mes sbires, mais parce que pour moi, ça fait pas sens, quoi. Donc, il y a ce truc de pourquoi au début et la vision, qui sont genre les deux côtés de, du chemin, quoi. Et ensuite, j'entends aussi un truc de vraiment bien structurer l'arrivée de la personne et l'onboarding. Toutes les informations qu'elle doit avoir, tous les éléments concrets qu'elle doit avoir, l'accès à tout, enfin toutes ces choses-là. Et après, je pense qu'il y a un sujet sur le day-to-day, comment tu t'organises au quotidien. Je pense que le point hebdo que nous, on fait toutes les semaines, ça marche bien pour nous. Il y a plein d'autres choses qu'on fait, Tu dirais quoi qu'il y a d'autres qui fonctionnent bien pour nous dans comment est-ce qu'on interagit, on échange, on se parle, on avance?
Bah, clairement, Notion, ça a été ma révolution. Moi, j'ai découvert Notion avec toi et vraiment, ça a été ma révolution. Mais ça nous permet vraiment d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. C'est sûr que on va à une vitesse qui est extraordinaire. Ne serait-ce que juste les retours sur les posts et sur la programmation pour moi aussi, pour les différents réseaux sociaux. Il n'y a pas si longtemps, je crois que ça fait un mois et demi, enfin peut-être 2 mois, qu'on a commencé à échanger un peu plus par WhatsApp. Et c'est sûr que ça va un peu plus vite, mais je pense qu'on a quand même quelque chose à creuser là-dessus. Mais c'est sûr que les trucs à ne jamais enlever, c'est le point hebdo. C'est sûr, c'est même pas envisageable de l'enlever. Ça permet de faire le point sur comment tu vas dans ta tête, où est-ce que tu en es, de ta motivation, de tes envies, de tout moi aussi, où est-ce que j'en suis, c'est quoi mes envies du moment, et de faire le point sur tous les contenus qui sont en cours, tous les projets qui vont arriver, etc.
Et, je trouve que si je me permets de faire un truc juste sur le point hebdo avant qu'on passe à autre chose, je trouve que c'est d'autant plus pertinent pour nous parce que ça va vite. Tu vois, les choses bougent assez rapidement d'une semaine à l'autre, en tout cas au stade où j'en suis aujourd'hui. Ouais. C'est peut-être pas vrai dans 6 mois. Peut-être que dans 6 mois, bah, ça vaudra le coup de faire un point toutes les 2 semaines parce qu'on sera plus posé, une vision peut-être plus long terme et les choses évolueront moins rapidement. Mais en tout cas, en fonction aussi de la vélocité de ton projet en tant que personne, pour ceux qui nous écoutent, en fonction de la vélocité de vous, votre entreprise ou votre projet, ou de ce pour quoi vous voulez un deuxième cerveau, réfléchir au rythme en fonction de ça, je pense. Parce que c'est une question que nous posait Julia, par exemple, quand on faisait le planning du mois d'octobre avec elle. Est-ce que ça pourrait pas être un point mensuel? Et je pense que pour nous, on a besoin que ce soit hebdo parce que les choses avancent vite.
Et encore, il y a des trucs où je me rends compte, après qu'on ait fait le point hebdo, que j'ai oublié de t'en parler. Et donc, faut juste que je structure mieux mes idées. Mais je pense que oui, un point mensuel, c'est inenvisageable, quoi.
Ou alors, c'est d'autres objectifs du point mensuel. C'est pas la même chose.
Ouais, ou d'autres objectifs et plus, des objectifs à plus long terme, sur des choses qui sont plus grandes. Les seules autres visios qu'on fait autre que les points hebdo, bah, c'est sur les gros projets qui arrivent. Donc, sur des projets où tu as vraiment besoin que tu me fasses un onboarding clair, où toutes tes idées fusent, et moi je les note et je prends les idées qui arrivent pour en parler plus tard. Mais sinon, les seules visios qu'on fait, c'est ça. Et sinon, bah, WhatsApp, on a commencé à l'utiliser. Mais je pense que le point de communication, il faut encore qu'on le travaille parce qu'il faut qu'on arrive à trouver un truc qui soit automatique et où tu puisses me répondre très facilement.
Bah, clairement, j'allais dire, je pense qu'il faut un point de contact unique. Ouais. Parce que là, on est entre un Slack, un WhatsApp. Il y a des fois même, c'est sur Instagram parce que je t'envoie souvent ce que je fais. J'enregistre un truc que j'aime bien sur Instagram. Je l'envoie à Diane en disant, ah tiens, ça, c'est cool. On pourrait s'en inspirer. Mmh. Et du coup, des fois, on parle dans Instagram. Et je pense qu'effectivement, c'est important qu'on trouve notre maison, entre guillemets, en termes de où est-ce qu'on communique au day-to-day, au quotidien, sur des petits trucs. On le fait beaucoup dans Notion, effectivement, sur les commentaires, sur des choses très précises. Pour ceux qui ne savent pas comment Notion fonctionne, on peut l'utiliser de plein de différentes manières. Nous, on l'utilise beaucoup avec Diane comme un système d'archivage de contenu. Et du coup, sur les contenus, quand on est en train de les construire, ben, on fait des commentaires en live dessus et ça nous permet de rebondir là-dessus, etc. Donc, on communique beaucoup comme ça, finalement. Mais je pense que là, pour prendre un peu de hauteur sur Notion, WhatsApp et ainsi de suite, je pense qu'il faut, c'est un outil où on parle de l'organisation claire des tâches, entre guillemets, tel contenu, telle tâche, telle chose sur laquelle on est en train de bosser, donc un endroit comme ça, que ce soit un Notion ou un ClickUp ou un Trello ou un Monday, peu importe finalement, mais un go-to là-dessus, plus un canal de communication plus textuel où on peut échanger, prendre la parole, parler d'autres choses qui sont pas forcément liés à une tâche, quoi. Je pense que c'est ça les deux canaux qu'il faut réussir à avoir. Tu seras d'accord?
Totalement.
Je t'ai coupé tout à l'heure sur le point hebdo. Je sais pas si tu allais rajouter quelque chose après.
Non, je disais qu'on faisait une visio. Oui, je disais qu'on faisait une visio par semaine et que ça nous suffisait beaucoup. les abus que l'on faisait autres, c'était quand tu me faisais des onboardings sur des gros projets qui arrivaient ou sur d'autres projets clients, mais qui sont totalement... On n'est pas que tous les deux. Mais oui, une vidéo par semaine, je trouve que c'est très, 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 très suffisant.
Ouais, clairement. Je te propose, pour avant qu'on arrive sur les questions rituelles de fin, qu'on joue à un petit jeu.
Oula, j'ai peur.
Le jeu auquel j'ai envie qu'on joue, c'est de se dire, si aujourd'hui on avait une baguette magique et qu'on pouvait améliorer n'importe quoi dans notre organisation, bref, la manière dont on gère notre équipe à deux et qui va commencer à grandir aussi, parce que j'ai plutôt certainement d'autres personnes qui vont nous rejoindre de manière plus régulière. Aujourd'hui, c'est que de temps en temps. Je pense notamment à la vidéo, par exemple.
Ouais.
Peut-être des gens qui vont nous rejoindre de manière plus régulière. Donc, bref, si on avait une baguette magique, qu'est-ce que tu améliorerais pour qu'on puisse encore mieux gérer notre manière de bosser ensemble?
Encore une fois, mais l'outil de communication. Je pense que c'est vraiment un truc sur lequel il faut qu'on travaille. Un autre truc, c'est que on soit plus à l'aise sur... que j'ai plus la main sur tes créations de contenu. On en parlait au dernier point hebdo, mais le site internet, c'est un truc qu'il faut vraiment qu'on travaille, parce que ça irait beaucoup plus vite que ce soit moi qui ai la main dessus et que tu m'aies juste donné les contenus à héberger dessus. Et même chose pour la chaîne YouTube. C'est un truc qu'il faut vraiment, vraiment que je prenne la main dessus, parce que il y a énormément de contenus qui sont pas hébergés dessus, et c'est vraiment dommage.
Ouais, grave.
Après.
Les gens qui nous écoutent, ils savent pas, mais il y a une baisse de données de vidéos qui sont, entre guillemets, la matière première est là, et juste, j'ai jamais eu le temps de les monter. C'est indécent. Je pense qu'il y a bien 15, 20 heures de vidéos. Voilà, ça va arriver.
Je vais arriver, vous inquiétez pas. Donc ouais, je pense que Magie Magique, ce serait ça. Et puis bon, après, ce serait faire 10 000 d'autres projets. Mais c'est sûr que juste ça, je pense que ce sera déjà un énorme pas en avant, quoi.
Ouais. Tu sais, moi, ce que ce serait, et je pense que tous les gens qui nous écoutent, même si vous n'avez pas encore d'équipe, vous devriez commencer à le faire dès maintenant. Ce que ce serait pour moi, c'est, je le ferai dans Notion pour le coup, mais c'est pas obligé d'être dans Notion, un espèce de, on appelle ça un wiki de tous les process de comment on travaille pour tous les différents sujets et de comment je travaille pour tous les différents sujets que je traite. Genre, pour faire un épisode de podcast, toute la méthode de A à Z, mon écran filmé, tout ça dans un endroit. Pour faire un épisode du vlog, tout le process. Pour créer une formation, tout le process. Et qu'on ait un endroit comme ça dans Notion, ça, clairement, si j'ai une baguette magique, je voudrais que ce soit fait maintenant, quoi, parce que ça te faciliterait la vie à toi, à moi, à potentiellement d'autres personnes futures, ça crée la cohérence globale, ça serait incroyable.
Et il y a un autre truc aussi, c'est les archives de toutes tes newsletters. Ça, magique, franchement, parce qu'il y a énormément... presque 200. Mon Dieu. Il y a énormément de contenu et d'idées qui sont exploitées dans tes newsletters et qui pourraient être tellement réexploitées dans d'autres contenus. Je pense vraiment, si on avait une baguette magique, mais ce serait mon rêve.
Mais on va le faire, bien sûr, on va le faire. Oui. Mais du coup, c'est des bons messages pour les gens qui nous écoutent, pour eux et pour construire une équipe, si c'est votre souhait. Prenez le temps de vraiment écrire et poser vos process de travail sur un document, pas dans votre tête. Moi, j'ai trop... En fait, je me rends compte, j'ai encore trop de choses qui sont juste dans ma tête et qu'il faut que je trouve un moyen de les sortir pour te les donner à toi, mais c'est encore mieux qu'on les pose sur papier pour pouvoir les rendre accessibles.
S'il y a un truc que je peux conseiller aux personnes qui veulent construire une équipe, pensez au fait que les gens ne sont pas dans votre tête. Les personnes qui travaillent avec vous, même si je travaille avec Thomas, et que je connais plein de choses sur lui, et que je connais son ambition, ses visions et tout, je suis pas dans sa tête. Donc, les idées qu'il a à minuit, quand on est en train de dormir, et qu'il y a un truc qui pop, je suis pas dans sa tête. Donc, en fait, je peux pas savoir. Je sais pas... on n'est pas dans votre tête, même si moi, je suis son deuxième cerveau, je suis pas déjà son premier cerveau. Donc, je ne peux pas savoir tout ce qu'il a dans sa tête.
Faut créer les connexions, là.
Ouais. Voilà.
Un disque dur ne se branche qu'avec un câble et du coup, il faut envoyer l'info de l'un à l'autre.
Exactement.
La petite métaphore. Trop bien. Ben, c'est trop cool, Diane. Merci pour toute cette discussion. Ouais. Je vais arriver sur les questions rituelles de fin parce que tu y as aussi droit maintenant que tu, on peut dire, et presque officiellement freelance. Mais je vais les échanger un petit peu, tout de même. Et du coup, la première, c'est s'il y a une difficulté que tu as vécue depuis que tu as commencé à faire des projets, pour le coup, parce que tu es fraîchement freelance, donc tu n'as pas encore vraiment eu de difficulté. S'il y a une difficulté que tu as eue depuis que tu as commencé à faire des projets, genre la plus grosse, c'est laquelle et comment tu l'as surmontée?
Je dirais que c'est le fait que je doutais beaucoup trop, enfin pendant un trop long moment, est-ce que c'est vraiment important que je le fasse? Et l'année dernière, avec mon stage chez Udéo, ça m'a montré, parce que du coup, je discutais très souvent avec des créateurs de contenu qui étaient des talents de l'agence. Quand je suis revenue à Tours après mon stage, je me suis dit mais en fait c'est des personnes comme moi et elle et enfin des personnes qui juste genre fait des vidéos sur leur chaîne YouTube, qui ont juste fait des photos parce qu'ils sont photographes ou qui ont juste commencé à écrire des scénarios parce qu'ils étaient des réalisateurs, etc. Donc je crois que le plus gros problème que j'ai eu dans le lancement de mes projets, c'est vraiment le lancement de mon projet principal, c'est mon podcast solo qui a été sorti en décembre 2019. C'était de me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Parce qu'en fait, ça fait 4-5 ans que j'écoute des podcasts et j'ai quand même pris 4-5 ans avant d'en faire. Donc, au bout d'un moment, je me suis quand même dit, en fait, tu vas te bouger le cul et tu vas le faire. Donc, je crois que le gros problème, c'était ça. Et le problème actuel, maintenant... parce que maintenant ça me fait vraiment plus peur de faire des projets, que ce soit des podcasts, etc. C'est de arrêter de me battre et d'essayer de comprendre pourquoi genre les gens qui sont pas dans mon milieu ou dans mon secteur sont pas avec les mêmes valeurs que moi. Et c'est compliqué de juste se dire bah ils sont pas dans les mêmes valeurs et puis c'est pas grave. Une grande partie de ma famille par exemple comprend pas trop et c'est compliqué de pas s'essouffler à essayer de tout expliquer, quoi. C'est compliqué.
C'est une... Disons que c'est un problème de qualité. Ouais. Cool. On creusera ensemble, si tu veux.
Oui.
Avec plaisir. Seconde question rituelle. Comme... Il n'y a pas le toi vers ton toi du passé qui est la question normale. On va faire au présent. Si tu as un conseil que Diane doit entendre de la part de Diane, c'est quoi ce conseil?
Pour son lancement?
Pour où tu en es maintenant aujourd'hui, le 16 octobre 2020?
Respire. mais... J'ai beaucoup réfléchi à celle-ci parce qu'on en a discuté avec Marine et on se disait en fait moi je me dirais trouve vraiment fais confiance à la personne avec qui tu travailles. Moi ce serait Marine, mon acolyte de travail, vraiment ça fait 3 ans qu'on se connaît et en 3 ans on a beaucoup évolué et en fait le fait qu'on se lance en même temps bah ça multiplie nos idées, nos process, nos organisations par 10 en fait. On se parle tous les jours, on s'envoie des messages toutes les 5 minutes. Et en fait, nos idées, elles fusent beaucoup plus que si j'avais été toute seule. Et le deuxième, ce serait trouve ton mentor. Parce que le fait que j'ai été en stage avec toi, ça m'a permis que toutes les questions que j'avais, je les vois avec les personnes qui se lancent. Hier, j'ai appelé une amie à moi qui a 2 ans de plus que moi, qui était dans la même école que moi, mais pas dans la même promotion. Et ça fait 2 ans qu'elle s'est lancée en free. Et elle me posait des questions à moi, alors que je ne suis même pas encore lancée officiellement. Et il y avait plein de trucs sur lesquels elle n'était pas du tout claire. Et le fait que j'ai été avec toi pendant 5 mois, ça m'a permis d'avoir un mentor et de genre toutes les questions métaphysiques que je me posais sur l'indépendance et sur comment j'allais me lancer. je savais que j'avais, qu'il y avait toi, ou ça, ça pouvait être n'importe qui, hein, que ce soit d'autres personnes de mon stage, auxquelles je pouvais poser mes questions et qui allaient me répondre. Donc, c'était un mentor et un vrai investissement, quoi. De me dire, j'ai quelqu'un à côté de moi qui me fait confiance, qui me connaît aussi. Ouais, c'était. Je pense que les deux conseils, c'est trouve ton acolyte de travail, vraiment. Trouve-toi quelqu'un avec qui tu vas te lancer en même temps. Vous allez voir les mêmes galères. Vraiment, c'est la meilleure décision qu'on ait prise avec Marine. Et trouve ton mentor. Trouve ton mentor qui va être là pour te challenger, pour te faire travailler sur d'autres trucs, te pouvoir te répondre à plein de questions, etc.
Trop cool. Trop cool. Et la dernière question qui est my favorite. Si tu avais une question à poser aux gens qui nous écoutent, pour qu'ils prennent un temps pour réfléchir à leur activité et à eux-mêmes, c'est quoi cette question ?
Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas le faire ? Rien.
Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas le faire ?
Rien. Bah, fais-le alors.
Excellent. Faites-le, les gars.
Ouais.
Et les filles.
Oui.
Just do it. Excellent. Ben, merci beaucoup, Diane, pour cette discussion. Je suis ravi. C'était vraiment trop cool de faire ça ensemble. Ouais. Et je te propose qu'on se donne rendez-vous. On refait ça d'ici un an et demi. Ouais. Et on voit ce qui s'est passé. Ça va être marrant.
Oui, ça va être
excellent. Trop bien. Mais fin 2021, vous aurez de nouveau un épisode pour témoigner de notre évolution et de comment on a continué de structurer l'équipe.
Exactement.
Où est-ce que les gens qui t'ont écouté parler pendant une heure peuvent venir te suivre, parler avec toi, voir ce que tu fais ?
Le plus gros, la chose la plus pratique, c'est mon Instagram, @Diane n'est pas que. C'est le nom de mon podcast. Sur mes podcasts, si vous voulez découvrir un peu mon mindset. Donc, mon podcast solo, Diane n'est pas que. Le podcast que je fais avec ma sœur, où je parle moins de Thomas, le même est de la grande sœur. Et sinon, j'ai aussi un podcast d'interview où Thomas est passé, qui s'appelle Belle Personne, où c'est pas mal dont on a parlé, de ce dont on a parlé dans cet épisode, où c'est des personnes qui procurent un sentiment d'admiration et qui parlent de leurs angoisses, de leurs doutes, de leurs peurs, de leurs moments d'angoisse qui vont pas bien. Et mon objectif, c'est juste de dire, bah, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Donc voilà.
Trop cool. Je mettrai tous les liens en description et sur le site pour que les gens puissent retrouver tout ça. Merci beaucoup, Diane. Je suis trop content qu'on ait fait ça. Et merci à tous ceux pour qui nous ont écoutés. Ciao, à bientôt. Bye. J'espère que cet épisode t'a plu parce que personnellement, je suis très heureux d'avoir pu accueillir Diane sur le podcast et qu'on puisse, toi et moi, avoir un regard sur déjà elle et son activité au moment où elle se lance, elle en est au tout début de son activité de freelance, et en même temps qu'on jette un coup d'œil aussi tous les deux dans les coulisses de la structuration de ma propre équipe, et j'aime bien ce double regard qu'on a dans cet épisode. J'ai toujours eu cette vision d'avoir des personnes qui me rejoignent dans cette quête de créer des choses puissantes pour toi, pour les indépendants, pour le développement de cette forme de business indépendante. Et je suis très heureux de commencer avec ce premier pas sur le chemin de la structuration de cette équipe. Je sais pas vraiment encore où tout ça va nous mener, mais je suis sûr que l'aventure sera très riche d'enseignements et que je vais découvrir plein de choses sur le chemin. Si cet épisode t'a plu et que tu veux avoir un regard encore plus proche sur les coulisses de ma propre activité, je partage régulièrement dans ma newsletter ce que j'apprends de mes propres expériences, de mon travail avec mes clients, bref, de toutes ces choses, et j'y partage du coup les leçons que toi aussi tu peux en retirer pour ta propre activité. Donc si tu veux rejoindre les milliers d'autres indépendants qui me lisent chaque semaine dans la newsletter, c'est très simple, tu peux t'abonner sur thomasburbidge.com/newsletter. Tu recevras d'ailleurs des ressources pour t'aider dans le premier mail. D'ici là, de mon côté, je n'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne journée et une merveilleuse semaine. On avance ensemble. Et on se retrouve très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.